Le jeudi, on parle plus généralement, vous le savez maintenant, d'histoire des sciences et d'épistémologie. Il y a 3 semaines, le CNRS et l'ETH de Zurich ouvraient une enquête pour suspicion de fraude en biologie moléculaire. C'est le 2e scandale qui éclabousse ces institutions, 2 ans après la sanction d'un biologiste pourtant promis aux plus hautes distinctions. À l'ère de la transparence et de l'accès libre aux données, la fraude scientifique est un mal particulièrement difficile à éradiquer dans un contexte où la compétition internationale et la course aux publications font office de loi de la jungle. Fraude scientifique, faut-il changer les règles? C'est le problème que nous allons tenter de résoudre dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer cet épineux problème, comme nous allons le voir, de la fraude dans la recherche, nous avons le plaisir d'accueillir autour de la table de la méthode scientifique Nicolas Chevassu-Louis. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en biologie, historien et journaliste et vous publiez aux éditions du Seuil dans la collection Science Ouverte ce livre, Malscience de la fraude dans les labos. Un livre qui dresse un tableau assez noir, hein, il faut le dire, du milieu de la recherche. Ce qui m'amène pour commencer à cette question, certainement un peu naïve, mais vous allez me contredire ou me confirmer, c'est vous qui aurez le dernier mot, Nicolas Chevassu-Louis, les chercheurs sont-ils tous des tricheurs?
Certainement pas. Certainement pas, mais la fraction qui est pris le doigt dans la confiture en flagrant délit de fraude augmente année après année, et c'est d'ailleurs ce constat qui m'a amené à faire ce livre, hein, constater que les affaires de fraude impliquant des laboratoires des plus reconnus, des revues les plus reconnues et des recherches passant pour de pointe étaient de plus en plus fréquentes.
Quel est le point de départ de ce livre exactement? C'est quoi? À quel moment vous vient l'idée de dire il faut mettre des mots sur ces fraudes qui parcourent l'ensemble des milieux universitaires et de recherche?
Précisément ce constat de la répétition de grosses affaires de fraude touchant toutes les disciplines, donc la physique par exemple avec Jan Hendrik Schön au début des années 2000, dont une quinzaine d'articles sont retirés dans les revues Nature, Science, etc. Ensuite Wang dans le domaine de la biotechnologie, 5 ans plus tard, il y a 3 ans de ça au Bokata, au Japon, les mêmes revues les plus prestigieuses, donc le cœur du système scientifique mondial qui est touché par des affaires de rétractation, c'est-à-dire on retire de la littérature scientifique des articles parce qu'il s'avère que les données qu'ils rapportent ont été obtenues de manière frauduleuse. C'est la répétition de ces affaires qui m'a amené à écrire ce livre.
Vous dites les chercheurs ne sont pas tous des tricheurs, ça tombe évidemment sous le sens, et pourtant vous citez dans votre livre Nicolas Chevassu-Louis, le sociologue des sciences Robert Merton, qui déclarait en 1957 devant le congrès de l'American Sociological Society, la culture de la science est dans une certaine mesure pathogène. Pourquoi est-ce que la culture de la science serait pathogène?
Merton faisait allusion au fait que...
En 57, hein, c'est il y a très longtemps.
Certainement, mais justement c'est quelque chose d'aussi ancien que la science telle qu'on la conçoit aujourd'hui. C'est l'idée qu'il n'y a de mérite, il n'y a de postérité, il n'y a de récompense que pour le premier à décrire un phénomène, à faire une expérience, à obtenir un résultat. Le second, le troisième, n'auront rien devant la postérité. Ce qui est d'une part curieux et d'autre part ennuyeux. Curieux parce que aux Jeux Olympiques, par exemple, il y a 3 places sur un podium. Et ennuyeux parce que qu'il y ait un second et un troisième qui reproduisent une observation, qui refont une expérience, prouve précisément qu'elle est reproductible. Ce qui est un des critères de sérieux, disons, un critère épistémologique de validité d'une observation, qu'elle puisse être reproduite. Donc, en bonne logique, le second et le troisième devraient avoir...
Une partie du mérite.
Une partie du mérite. Et ce que disait Merton à propos de ce caractère pathogène, c'est que cette course à être le premier eh bien, peut conduire parfois à prendre des libertés avec la rigueur scientifique.
Alors, vous dites aussi très vite par ailleurs, pour temporiser un peu ce tableau très noir, vous dites, Nicolas Chevassou-Louis, que via une enquête que vous avez menée, vous êtes arrivé au chiffre de 2% des chercheurs qui reconnaissent avoir inventé ou falsifié des données. C'est très peu finalement, 2%.
Pour ma part, je trouve ça plutôt énorme, que très peu. Et d'autre part, c'est pas moi qui ai mené cette enquête. C'est un sociologue des sciences italien qui s'appelle Daniel Fanelli, qui a fait ce qu'on appelle une méta-analyse, c'est-à-dire qu'il a regroupé l'ensemble des études dans lesquelles on demandait à des chercheurs de répondre par questionnaire anonyme. Avez-vous parfois pris tel ou tel ou tel. Donc c'est une espèce de synthèse des études existantes dans la littérature.
Ça reste du déclaratif.
C'est du déclaratif, donc on peut considérer que c'est sous-estimé. Et 2% rapporté à la population scientifique mondiale, ça fait quand même 170 000 chercheurs. Donc pour ma part, je trouve ça beaucoup.
Et vous dites également, vous en parliez tout à l'heure, sur les rétractations d'articles, là le chiffre est lui aussi relativement inquiétant. Vous dites que ces rétractations d'articles se sont multipliées par 10 depuis les années 80. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est à combien à peu près? Vous avez un ordre de grandeur pour qu'on se rende compte du nombre d'articles qui sont retirés de la presse scientifique chaque année ou...
Ça reste des pourcentages tout à fait anodins. C'est inférieur à 0,1%. C'est moins d'un article sur 1000 qui est retiré. Cela dit, les articles qui sont retirés sont précisément dans les articles les plus scrutés, ceux qui passent dans les revues les plus prestigieuses et dont on va essayer de reproduire les expériences qui vont être suivies de près. Il y a certainement toute une part d'articles dans des revues moins connues, moins lues, voire dans des revues de troisième zone ou d'arrière-ban qui sont tout aussi frauduleux, mais dont personne n'a pris la peine d'établir le caractère frauduleux.
Vous dites aussi dans ce livre que c'est paradoxalement, peut-être d'ailleurs, c'est à vous de le dire, que ce sont dans les revues les plus prestigieuses, on peut les citer, Nature, Science, pour ne citer que ces deux-là, que ce sont dans ces revues qu'il y a le plus grand nombre de rétractations. Comment est-ce qu'on explique ça ? On pourrait se dire que les plus grandes revues ont un comité de lecture plus attentif, plus scrupuleux, et pourtant c'est pas le cas, Nicolas Chevassou, lui.
Je pense qu'une des explications, c'est que, quitte à prendre le risque d'enfreindre les règles de rigueur scientifique et de se livrer à une forme ou l'autre de fraude, autant que le jeu envahit la chandelle. Donc autant viser très haut et donc très prestigieux lorsque l'on tente de frauder.
C'est une sorte de folie des grandeurs, quoi. C'est-à-dire que quitte à tricher, autant tricher au vu au-dessus de tout le monde.
Je pense qu'on y reviendra un peu plus tard dans l'émission, mais un des facteurs les plus encourageants de la fraude, c'est le fait que dans certains pays, la rémunération du chercheur est indexée sur le prestige des publications. Plusieurs universités chinoises, par exemple, ont instauré une prime de 10 000 dollars par article dans Nature et Science que vous évoquiez à l'instant. Ça, c'est un puissant incitateur à frauder.
Donc, il y a un moteur financier. Alors, soyons précis avant de rentrer dans ces détails et dans les raisons plus pointues que vous isolez dans ce livre. Soyons précis dans la nomenclature. Qu'est-ce qu'on appelle fraude en science? C'est un seul mot qui recouvre plusieurs réalités.
Alors il y a, on va dire, principalement trois catégories de fraude. Je vais commencer par la moins grave, parler ensuite de la plus grave et surtout parler de celle qui est entre deux, qui est peut-être la plus intéressante. De cette manière, la moins grave, c'est le plagiat, le fait de voler les données, les articles d'autres. C'est certainement très désagréable pour l'auteur qui se découvre plagié, mais ça ne nuit pas à la solidité de l'édifice scientifique. Le plus grave, en apparence, c'est la fabrication de données. On invente une expérience.
La falsification.
La fabrication. On invente de toutes pièces des résultats. C'est énorme, ça paraît très grave, mais en général, on s'en rend compte assez vite parce que personne n'arrive à reproduire l'expérience. Et c'est la catégorie qui est entre les deux qui est extrêmement intéressante, la falsification que vous évoquiez, parce qu'elle pose le problème de savoir où commence la fraude et où s'arrête une pratique qui est généralisée dans les laboratoires, qui est celle de l'embellissement des données.
Alors sur l'embellissement, pour le coup, là vous dites, ça c'est un chiffre qui tend à contredire ces 2% que nous évoquions tout à l'heure, vous dites qu'une étude sur 5 est embellie. Ça veut dire quoi embellie précisément ?
Alors, ce chiffre est tiré d'une revue prestigieuse en biologie cellulaire, The Journal of Cellular Biology, qui s'est dotée de logiciels détectant automatiquement les retouches d'images par Photoshop ou autre logiciel de retouche d'images dans les clichés de microscopie reçus dans les manuscrits destinés à être publiés dans cette publication. Et c'est là qu'ils se sont rendus compte que le quart des clichés avaient été retouchés, embellis. Alors d'une certaine manière, dans les magazines, les stars également sont retouchées et embellies, et on appelle pas ça de la fraude. Mais est-ce que c'est bien nécessaire? Alors ça pose le problème. Pourquoi les chercheurs font-ils ça? Pour rendre leurs résultats plus, disons, plus frappants, plus convaincants. Charles Babbage, le mathématicien britannique du début du 19e siècle, appelait ça le cuisinage des données. Et il faisait remarquer qu'une des raisons de ce cuisinage des données était de se forger une réputation d'expérimentateur particulièrement adroit et compétent, obtenant des résultats particulièrement incisifs et frappants.
Saillant. Et ce qui est intéressant, c'est qu'entre ces trois catégories, falsification, fabrication et plagiat, avec cette espèce de chapeau qui recouvre un peu tout de l'embellie, ce que vous montrez dans ce livre, Nicolas Chevassou-Louis, c'est que on est en fait face à un continuum. Il n'y a pas le méchant. Alors il y a quelques-uns de méchants scientifiques, entre guillemets, un peu caricaturaux, qui forgent tout et qui font des faux en connaissance de cause pour tromper le monde et pour gagner de l'argent ou de la renommée, de la célébrité. Mais que la plupart du temps, ce sont des petits arrangements, en fait, avec le réel, avec un écart-type un peu trop grand qui disparaît d'un seul coup et qu'on oublie de voir, c'est ça?
C'est exactement ça. Et c'est ça qui rend bien difficile de se saisir à bras-le-corps de cette question de la fraude scientifique, ainsi entendue.
Et dans ce corpus de fraude, ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est qu'il y a un effet d'entraînement. Hein, puisque quand une étude est publiée, qu'elle est frauduleuse de quelque façon que ce soit, intentionnellement ou moins intentionnellement, qu'elle est un peu maquillée, qu'elle est un peu embellie, eh bien elle sert de base d'études pour des expériences suivantes, et que quand on part d'une étude où on a arrondi un peu trop, on sait que au fur et à mesure, les résultats deviennent de plus en plus erronés, de plus en plus faux, et qu'il y a donc finalement une contagion de cette falsification à l'ensemble des travaux de la communauté scientifique dans un secteur donné.
C'est une des raisons pour lesquelles la fraude scientifique menace l'ensemble du système de recherche au niveau international. Vous me demandiez en début d'émission si tous les chercheurs sont fraudeurs. Non, à l'évidence, non. Cela dit, de plus en plus de chercheurs vont perdre du temps à tenter de reproduire des expériences frauduleuses. Et c'est une perte de temps qui menace y compris les chercheurs les plus intègres. Donc, c'est en ce sens où ils vont citer une publication, s'appuyer sur ses résultats, alors qu'elle a été obtenue de manière frauduleuse. En ce sens, l'ensemble du système scientifique international, qui encore une fois est formé de gens intègres, est menacé par l'expansion de la fraude.
C'est une perte de temps et une perte d'argent aussi, hein, par voie immédiate de conséquences. Ça coûte très cher à l'ensemble de la communauté scientifique, ces vérifications d'études qui sont des études falsifiées.
C'est un gaspillage.
Un gaspillage. John Ioannidis, qui est donc un biologiste américain, qui est l'une des premières personnes, en tout cas, à avoir mis récemment, en 2005, sur la place publique ces problèmes de fraude, parle de 85% de l'argent gâché dans le strict domaine de la recherche biomédicale. Ça vous paraît un chiffre cohérent? Là, ça, pour le coup, on passe des 2% du début à 85%, à quelque chose d'absolument énorme, d'argent gaspillé pour des faux positifs, pour des résultats embellis.
Oui, alors on ne parle pas de la même chose. 2%, ce sont les chercheurs qui reconnaissent avoir fabriqué ou falsifié délibérément des données. Ioannidis, avec ses 85%, il travaille essentiellement, et c'est sa formation initiale, sur les tests statistiques, la puissance statistique des essais. Est-ce que l'on peut réellement conclure à l'existence d'un effet? Et l'article qui a fait la célébrité de Ioannidis s'intitulait précisément « Pourquoi la quasi-totalité des articles en matière de recherche biomédicale sont faux ?» En fait, ils sont faux ou qu'ils ne permettent pas de conclure parce qu'il n'y a pas assez de patients, l'expérience n'a pas été reproduite suffisamment, les contrôles ne sont pas appropriés, mais ce n'est pas de l'ordre de la falsification, c'est de l'ordre d'études mal pensées, faute de culture statistique ou du fait de la volonté d'aller trop vite, mais il n'y a pas de volonté délibérée de tromper. C'est ce qui fait une différence de taille, je pense.
Il faut d'ailleurs dire à ce propos, puisqu'on parle de la recherche biomédicale, que toutes les disciplines de recherche ne sont pas égales devant la fraude en quelque sorte.
Non, c'est très important. C'est très important de le préciser et de préciser en particulier que les mathématiques ignorent tout problème de fraude du fait même de leur épistémologie. Un résultat est soit vrai, soit faux. Il y a quelques problèmes de plagiat en mathématiques, mais en aucun cas de résultats falsifiés ou fabriqués. Cela n'existe pas. Sorti des mathématiques et d'une certaine mesure de la physique la plus théorique, toutes les disciplines sont à un titre ou un autre concernées. Mais les plus concernées vont être celles, et c'est pour ça que la biomédecine est au cœur du cyclone, sont celles où les enjeux d'argent, ou les enjeux commerciaux, les enjeux économiques, de création de start-up, de brevets, ces choses-là, sont les plus importants.
À propos de cette nouvelle enquête conjointe du CNRS et de l'ETH de Zurich que j'évoquais tout à l'heure, il faut peut-être préciser ce qui s'est passé il y a 2 ans. On est là, pour le coup, est-ce qu'on peut dire en quelque sorte devant le premier scandale de fraude de grande ampleur en France avec le chercheur Olivier Voynet qui a été, il faut le rappeler, en France exclu pour 2 ans du CNRS, qui est une sanction très lourde.
On n'est pas dans le premier cas de fraude à grande ampleur, mais on est dans la première sanction de taille de l'histoire du système de recherche français. Il y avait eu des cas tout à fait impressionnants, mais qui avaient été traités soit discrètement, soit ou absolument enterrés. Et là, le CNRS, dans des conditions d'ailleurs dont on peut discuter, mais a choisi de frapper fort, ce qui correspond à la fin d'une certaine omerta française sur les questions de fraude scientifique. Là, on peut dire à présent qu'au plus haut niveau de tous les organismes de recherche et de la plupart des universités, la question est prise au sérieux et je m'en réjouis.
Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu ce qui s'est passé exactement pour nos auditeurs qui ne connaissent pas cela, ce cas? Comment est-ce qu'on a découvert cette fraude d'Olivier Voynet qui était, quand je disais tout à l'heure qu'il était promis aux plus hautes distinctions, on parlait de lui pour le prix Nobel. Sur quoi il travaillait exactement?
Je ne parlerai pas de fraude d'Olivier Voynet. Olivier Voynet donc était un biologiste qui travaille, un biologiste végétal, donc biologiste des plantes, qui découvrait des mécanismes moléculaires extrêmement intéressants, susceptibles d'applications dans d'autres domaines, et est apparu sur un site dont on reparlera dans l'émission qui s'appelle PubPeer, qui permet aux chercheurs de commenter, de critiquer en ligne des articles publiés, des allégations selon lesquelles certaines figures de ces articles se ressemblaient étrangement. Des choses bizarres. Mmh. Bon. Les allégations anonymes sont parues suffisamment importantes pour que tant le CNRS qui employait Olivier Voynet que le TH de Zurich, où il dirigeait également un laboratoire, diligentent tous deux une enquête. Les deux enquêtes se mènent de manière séparée. Celle du CNRS ne donne aucun rapport public. On ne sait pas ce qui est reproché à Olivier Voynet. Mais on sait que la sanction qui est prise contre lui, une mise à pied de 2 ans, est extrêmement lourde et sans précédent dans l'histoire de l'Institut. On ne sait pas, je ne peux pas dire si c'est fraudé ou non. Et à l'inverse, l'ETH de Zurich rend public un rapport de plus de 25 pages qui recense les faits et ne les qualifie pas de fraude, les qualifie de déficience dans la gestion des multiples équipes dirigeait Olivier Voynet, faisant qu'il a dû endosser sous sa signature des choses trop vite faites, mal faites, etc., faute de pouvoir superviser. Il dirigeait 2 laboratoires là en France ensuite, etc. Donc, qualifie cela de problème sérieux, de rigueur, mais pas de fraude. Et donc, à ce titre, l'ETH de Zurich maintient Olivier Voynet dans ses fonctions, mais lui adjoint pour toutes les questions de direction de laboratoire un collaborateur obligatoire, en quelque sorte, un coach, si l'on voudra. Donc moi, je ne parle pas de fraude à propos d'Olivier Voynet, il n'y a rien de qualifié. Alors, une nouvelle enquête vient d'être ouverte, nous attendrons.
Alors, on ne sait pas si ça concerne Olivier Voynet, on sait que ça concerne l'ETH de Zurich et le CNRS, mais pour le moment, on n'a pas d'informations supplémentaires. Donc
je me refuse à parler de fraude dans l'État.
Mais ce qui est intéressant dans ce double traitement du CNRS d'une part et de l'ETH de l'autre, c'est que vous venez de le signifier, Nicolas Chevasse-Coulouis, il y a deux poids, deux mesures dans le traitement de cette suspicion de fraude, appelons-la comme ça. D'un côté, le CNRS qui décide de sortir le bâton, de taper très fort, mais on ne sait pas pourquoi, c'est-à-dire dans l'obscurité la plus totale, et de l'autre côté, une transparence avec une forme de clémence au bout, qui a raison, hein, si je puis me permettre cette question peut-être un peu simpliste, mais en tout cas, entre ces deux méthodes, laquelle est selon vous la bonne pour non seulement punir s'il y a eu tricherie, mais ne pas encourager ou dissuader les éventuels futurs tricheurs?
Je ne peux pas me prononcer parce que les faits ne sont pas rendus publics suffisamment pour qu'on puisse se faire un avis. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il me semble que cette diversité de traitement illustre l'extrême difficulté de savoir où s'arrête l'embellissement des données ou une certaine négligence dans leur acquisition et où commence la fraude. Et que 2 commissions d'experts, que j'imagine d'une égale légitimité, réunies l'une en France, l'autre en Suisse, on arrive à des conclusions différentes pour une commission, la Suisse. ce n'est pas sérieux, mais ce n'est pas très grave. Pour l'autre, en France, il s'en bloque. Ça a été considéré comme et sérieux et très grave. C'est une question d'appréciation et ça pose encore une fois le problème du curseur à placer.
Mais je vous propose, Nicolas Chavassou, lui, d'écouter ce qu'en pense jeune Ioannidis. Nous l'avions interrogé mi-septembre suite à cette affaire de nouvelle fraude, d'enquête en tout cas au CNRS. Voilà ce qu'il nous avait répondu.
Je ne crois pas qu'une vague de publications frauduleuses ait traversé l'Atlantique vers l'Europe. Pour moi, c'est un problème global. Rien que l'année dernière, nous avons enquêté sur deux domaines où les publications étaient très importantes. La psychologie, où l'on s'est aperçu que deux tiers des études d'impact sur le terrain ne pouvaient pas être reproduites, et la science économique expérimentale, où là c'était un tiers des conclusions des articles qu'on ne pouvait pas démontrer de nouveau. Attention, le fait qu'une étude ne soit pas reproductible n'implique pas forcément qu'il s'agisse de fraude ou d'études faites par des escrocs à partir de données imaginaires, ou que les résultats ont été biaisés. La plupart du temps, c'est vraiment lié à la difficulté scientifique. Mais en ce qui concerne le CNRS et l'ETH de Zurich, cela me semble un peu différent de ces problèmes très répandus, mais qui relèvent, disons, d'une insuffisance honnête. Là, les pratiques ne sont pas seulement contestables. Il semble qu'elles aient été complètement inappropriées. Et c'est pour ça qu'il a fallu retirer ces textes. Il y a eu des sanctions à la hauteur de la méconduite relevée.
Voilà, oui, c'était John Ioannidis. Nicolas Chavassou-Louis, vous partagez le point de vue qu'il vient d'exprimer ?
Je pense Ioannidis a tout à fait raison d'insister sur la question de la non-reproductibilité qui passe, lorsqu'on est à l'extérieur du monde scientifique, pour quelque chose de tout à fait étonnant. Si on a un vague souvenir de terminale, de quelques cours d'histoire des sciences et de philosophie des sciences, on se souvient vaguement que la reproductibilité d'une expérience est censée être un critère de scientificité. Voilà. Et quand on apprend, donc Ioannidis cite des chiffres en psychologie expérimentale, en économie, mais le plus frappant, c'est en biologie, où selon les deux études qui ont tenté de reproduire systématiquement des centaines d'expériences rapportées dans la meilleure revue, trouve l'une 25% de reproductibilité, c'est-à-dire dans un quart des cas seulement, on arrive à refaire et obtenir le même résultat, et l'autre 10%. Donc ça veut dire dans 9 cas sur 10, on n'arrive pas à obtenir le même résultat d'une expérience. Mais Ioannidis a raison de souligner que ça ne veut pas dire que c'est frauduleux. Par contre, il a raison de souligner que ça peut signifier que la question scientifique est tellement complexe qu'on ne la maîtrise pas suffisamment. Pour ma part, je pense aussi que l'embellissement, la pratique de l'embellissement des données, des petits arrangements, a atteint une telle ampleur qu'il en devient difficile de retrouver deux fois la même chose quand on le fait avec la rigueur, justement, d'un protocole visant à établir cette reproductibilité.
Est-ce que vous pensez que la France, vous avez, il y a un chapitre de votre livre qui s'appelle L'Omerta française, est-ce que vous pensez que la France est très en retard justement dans cette gestion de la fraude, de l'embellissement? Vous expliquez comment les instituts de recherche ont été très, 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 très tardifs à mettre en place des organes de contrôle interne. Le premier, c'était l'INSERM à la fin des années 90. Vous dites que le CEA, le commissariat à l'énergie atomique, n'en a toujours pas. Est-ce qu'on ne sait pas? Est-ce que la France a une culture de l'omerta, du secret, qui continue à perdurer aujourd'hui, selon vous?
Je ne le dirai plus. Je ne le dirai plus depuis 2-3 ans. L'INSERM, donc dans la recherche médicale, a été pionnière en se dotant d'un bureau de l'intégrité scientifique, c'est-à-dire un chercheur de l'INSERM, habilité, ne répondant que devant le directeur général de l'organisme, à instruire et des allégations de fraude au sein de l'organisme. Et ce système a fait école sous des noms divers, le CNRS, l'Institut Pasteur, l'INRA, l'Université Paris 6, etc. Se sont dotés d'institutions comparables. Il est vrai que le CEA reste à l'écart. Il est non moins vrai que le CEA, d'une part, a une branche militaire et dont on ne sait pas ce qui s'y passe, et que d'autre part, le CEA fait principalement, même quasi uniquement de la physique. Il y a un petit peu de biologie tout de même, mais quasiment de la physique qui est une discipline tout de même moins sujette à ces problèmes.
Pour autant, il manque toujours en France un organisme national qui chapeauterait peut-être toutes ces institutions et qui serait un référent comme ça existe par ailleurs en Allemagne ou aux États-Unis.
C'est vrai. C'est vrai. Et
pourquoi est-ce qu'on n'a pas ça en France? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on n'en veut pas? C'est un problème de culture scientifique?
Une des raisons, c'est qu'en France, on a des gigantesques organismes de recherche, tels le CNRS. Il me semble qu'il y a 20 000 personnes au CNRS, une dizaine de milliers à l'INSERM, etc., qui n'ont absolument aucun autre équivalent. L'Allemagne, c'est essentiellement, il y a les Max Planck Institute, mais c'est essentiellement un réseau d'universités qui peuvent avoir chacune leur démarche propre et où il peut être utile de donner une sorte de cadre de référence, de charte nationale. En France, chaque organisme s'est retrouvé à se doter de sa propre politique, mais encore une fois, dans leurs grandes lignes, ce sont les mêmes politiques qui sont menées.
Alors, il faut rectifier un petit peu, puisque le rapport Corvol du mois de juin donne trois grandes pistes sur justement pour lutter contre la fraude scientifique. Il parle d'un engagement de la tutelle ministérielle, de la formation des scientifiques à l'intégrité et de la création d'un office français d'intégrité scientifique. Pour vous, ces trois bonnes pistes à exploiter? Qu'est-ce que vous en pensez de ce rapport?
Avant de vous répondre sur ce point, je vais juste dire un petit mot sur le rapport. Pierre Corvol est un pharmacologue qui était l'administrateur du Collège de France jusqu'à il y a peu. Que Pierre Corvol, après avoir signé des tribunes courageuses dans la presse, remette au ministère un rapport sur ces questions d'intégrité scientifique, reconnaissant que c'est un problème sérieux, et que ce rapport soit rendu public, est en soi une marque du fait que la communauté scientifique française ne nie plus le problème. Parce qu'il y a, donc en 2010, il y a 6 ans de ça, un autre haut fonctionnaire du CNRS, M. Alix, avait remis un rapport extrêmement intéressant au ministère qui a été enterré et qui n'a même pas été rendu public, premièrement.
Ah oui. Vous l'avez interrogé, vous lui demandez si ça servait à quelque chose, il vous répond, ça n'a servi à rien.
À rien, voilà. Donc ça, c'était jamais qu'il y a 6 ans. Et d'autre part, il y a 6 ans, le Collège de France organisait déjà un colloque sur ces questions, où étaient abordées en particulier ces questions d'intégrité, mais pas uniquement. Et je me souviens très bien que Alain Prochian, qui a succédé, le biologiste Alain Prochian, qui a succédé à Corvol, au poste d'administrateur du Collège de France, déclarait qu'il n'avait jamais rencontré le moindre cas de fraude, que non, c'était parfaitement incompatible avec l'éthique même du scientifique. Donc on était dans une forme, disons, soit de déni, soit d'ignorance, et le rapport Corvol montre que non, on n'y est plus.
Au niveau international, vous pensez que la déclaration de Singapour, qui date de 2010 pour l'intégrité de la recherche, a une influence quelconque, ou c'est juste un joli paquet cadeau qu'on met un peu au loin et qui ne change rien à rien, finalement, dans la réalité de la pratique des laboratoires?
Je ne pense pas que ça change grand-chose à l'arrêté de la pratique des laboratoires. Ce n'est pas pour ça que c'est inutile. C'est une sorte de rappel des principes de ce que devrait être une recherche intègre.
Oui, la déclaration s'appelle la déclaration de Singapour pour l'intégrité de la recherche. Une dernière question sur ce sujet et sur notamment le rapport de la France à cette fraude scientifique. Est-ce qu'il faut plaider pour plus de médiatisation des sanctions? Parce que finalement, vous dites qu'il y a une culture donc de l'omerta, que longtemps ça s'est réglé à l'intérieur des organismes de recherche, à l'intérieur des laboratoires, qu'on ne voulait pas laisser sortir la fraude pour ne pas jeter une ombre ou de la suspicion sur les institutions. Est-ce qu'aujourd'hui il faut en finir? Est-ce qu'on en a fini? Ou est-ce qu'il faut encore faire des efforts pour en finir avec cette omerta et médiatiser, comme l'a fait le CNRS il y a 2 ans, les sanctions des scientifiques fraudeurs?
S'il faut le faire, c'est en tout cas pas comme le CNRS l'a fait la dernière fois. Le communiqué du CNRS faisait 10 lignes, même pas, on n'avait même pas le nom de M. Voynet, il y avait juste son initial, on apprenait qu'un chercheur du CNRS, dont le patronyme commençait par la lettre V, avait été mis à pied pour 2 ans, point. Alors ça, si médiatisation il doit y avoir, c'est en expliquant les raisons, la gravité des actes reprochés, médiatisation peut-être, mais alors dans la transparence. Soon, it'll be Friday.
they don't realize you're giving up anyway.
La méthode scientifique, Nicolas Martin.
Fraudulent Truth, la vérité frauduleuse de iHuman, c'est le choix de notre réalisatrice Elisabeth Miro. Il est 16h31, vous écoutez La Méthode Scientifique. Nous sommes avec Nicolas Chevassieu-Louis qui publie aux éditions du Seuil « Malscience de la fraude dans les labos ». On parlait à l'instant donc du cas français, de ce que vous appelez l'omerta française, Nicolas Chevassieu-Louis, et d'une partie donc des racines de la fraude scientifique. Il faut dire que on critique beaucoup, quand on parle de fraude scientifique, un principe qui s'appelle le publish or perish, publier ou mourir, c'est-à-dire la course à la publication. Il faut publier pour exister, il faut publier, vous le disiez tout à l'heure, pour être payé, pour ramener de l'argent dans son laboratoire, et puis pour la célébrité et pour le rayonnement de ses recherches à l'international. Mais ce slogan, publish or perish, il est français, même s'il est dit en anglais. Dans votre livre, vous expliquez que la source, c'est le premier directeur du CNRS, Henri Laugier, qui l'avait affiché dans son bureau.
Je ne sais pas si Henri Laugier l'avait inventé. En tout cas, l'expression existait déjà en 1939, donc dans le bureau d'Henri Laugier, du premier CNRS.
D'accord. Et aujourd'hui, on peut dire que ce publish or perish, c'est-à-dire la course nécessaire à la publication, vous expliquez aussi dans ce livre comment, dans les instituts de recherche, il y a une sorte de ce qu'on appellerait aujourd'hui du shaming, de la honte auprès des scientifiques qui publient moins, qui publient peu, qui publient pas assez, alors que à l'inverse, un scientifique ou une équipe qui va publier de manière complètement outrageuse, qui va publier de manière beaucoup beaucoup trop fréquente, sera encensé, alors que ça se ressemble vraisemblablement sur la qualité et le sérieux de ses recherches.
Ah, tout à fait. Le constat est réel et ne lasse pas d'interroger si l'on compare la science à une autre activité créatrice, par exemple la littérature. Est-ce que l'on demande à un romancier de faire un nouveau roman tous les ans ou tous les 6 mois? On admet tout à fait qu'il y ait un temps de maturation, parfois 4 ans, 5 ans, 6 ans, et que, en tout cas, la quantité n'a jamais été synonyme de qualité en matière de littérature, ou en matière de l'esprit, ou en matière... Donc si on admet que l'activité scientifique a une part créatrice, on ne voit pas très bien pourquoi elle devrait obéir à une logique quantitative de rendement, et non pas plutôt à une logique qualitative qui inclut de prendre du temps, comme toute autre activité créatrice.
Alors en vrai, on voit très bien pourquoi ça répond à une logique de rendement, parce que derrière, encore une fois, il y a des financements, il y a du rayonnement international.
Oui, mais ces financements sont-ils plus efficaces? Produisent-ils de la meilleure science? Produisent-ils des connaissances plus fiables avec le système actuel plutôt qu'avec un autre qui consisterait à faire confiance aux chercheurs et, disons, à les financer pour 4 ans, 5 ans et à leur demander des comptes à l'issue de 4-5 ans, puisqu'il s'agit en général de l'argent public, donc tu l'as fait tout à fait normal d'estimer si cet argent a été dûment utilisé, mais pas de fixer ses objectifs de une ou deux publications par an qui oblige à un rythme, qui oblige au saucissonnage des données, au lieu de faire un bel et gros article qui représenterait 4 ans de travail et qui serait cité pendant des années après comme une référence en la matière, on va faire 6 ou 7 petits articles. Personne n'y a à gagner, mais en même temps, personne n'a intérêt à être le seul à être vertueux dans un système qui n'incite pas à être vertueux.
Alors, il faut aussi expliquer un peu ce que sont ces revues, qu'on appelle des revues à comité de lecture. Comment est-ce qu'on fait publier aujourd'hui Je suis chercheur dans un laboratoire en biologie moléculaire. J'ai envie de publier. J'ai l'impression que mes 13 faux positifs sont une belle recherche et je veux la faire publier dans une grande revue. Ça se passe comment ?
Alors, si ce sont 13 faux positifs, il y a une méthode beaucoup plus efficace qui est de publier dans une fausse revue scientifique, lesquelles sont également en plein développement. Mais pour comprendre ce que c'est qu'une fausse revue scientifique, il faut d'abord comprendre ce qu'est une vraie revue scientifique. Une revue dite à comité de lecture est une revue dans laquelle vous êtes, chercheur, vous envoyez votre manuscrit, que vous décrivant vos expériences, vos observations, vos résultats, et la direction de la revue va le donner à lire à deux ou trois experts du domaine qui donneront leur avis. Ces recherches peuvent-elles être publiées telles quelles? Faut-il rajouter telle expérience? Ou bien ces recherches sont-elles sans intérêt? Et donc c'est l'avis de ces experts
qu'on appelle le peer review.
Voilà, l'examen par les pairs. C'est ce système qui fonde aujourd'hui l'évaluation scientifique. Force est de constater qu'il n'est pas parfait. Rien n'est parfait, certes, mais qu'en tout cas, même ce système porté au plus haut degré d'exigence par des revues comme Natural Science, avec de très nombreuses revues parmi les meilleurs experts du domaine, ont pu laisser passer des très grosses affaires de fraude ces dernières années. Donc, il y a des réflexions, on y reviendra peut-être en cours, sur ce système de revues par les pairs qui fonde la publication scientifique depuis un siècle ou deux. N'est-il pas dépassé? Internet n'offre-t-il pas d'autres possibilités?
On va y revenir, mais effectivement, puisque c'était la question que je vous posais, est-ce que vous estimez que ces comités de lecture sont devenus inopérants? Ça n'a pas empêché, on l'a vu notamment en Chine, par exemple aussi, de la corruption pure et simple des pairs, et donc du coup la publication d'articles frauduleux contre un chèque sous le manteau.
Oui. Oui, mais dans des revues qui n'ont que très peu de prestige. Mmh. Il faut reconnaître que là encore, on parle de choses, disons, quantitativement importantes, parce que dès qu'on parle de Chine, les quantités sont importantes, mais qui n'ont pas, gangréné, ce ne sont pas des pratiques, on ne peut pas parler de corruption du système de publication.
On en parlait tout à l'heure, donc dans les revues, parmi les revues prestigieuses, on ne cite que ceux-là, mais il y en a un peu plus que ça, mais dans Nature et Science, qui sont donc les deux revues qui ont enregistré le plus de rétractations, suite donc à des articles frauduleux, comment expliquer que ce nombre de rétractations n'ait aucun impact sur le sérieux de ces revues et donc sur la nature des articles qui sont publiés à l'intérieur? Pourquoi est-ce que les gens ne se retournent pas vers d'autres types de revues, vers d'autres types de supports, puisque vous évoquiez Internet, et continuent à maintenir ces revues prestigieuses au-dessus de la mêlée?
Dans une large mesure, je n'ai pas de réponse à cette question je suis toujours aussi subjugué que des revues dont tous les chercheurs vous diront qu'elles fonctionnent selon des modes, selon des intérêts commerciaux, des intérêts politiques, etc., aient toujours une telle audience et une telle image de marque. Cela dit, on peut inverser la proposition et dire que précisément, si ces revues affichent le plus fort taux de rétractation, c'est peut-être précisément parce qu'elles sont particulièrement vigilantes et que c'est chez elles que l'on a détecté et que l'on a ressorti les plus d'articles frauduleux et que peut-être ailleurs, il y a toujours autant d'articles frauduleux précisément parce qu'on n'a pas été assez vigilant. C'est un argument discutable parce qu'il aurait peut-être fallu faire le tri avant, mais peut-être que le système de revue par les pairs qu'on évoquait n'était pas en mesure de détecter ces fraudes et que c'est précisément l'aura de ces revues qui a fait qu'on les a détectées par la suite.
Parce que si on pousse ce système de revue par les pairs jusqu'à son extrême ou presque jusqu'à l'absurde, il faudrait en sorte que les personnes qui revoient les publications soit non pas des spécialistes, mais le meilleur, voire plus spécialiste encore que la personne qui publie pour pouvoir savoir si cette étude est valide.
Alors ça, c'est bien une des contradictions inhérentes au système de revue par les pairs, c'est-à-dire que dans des mondes scientifiques assez parcellisés, vous n'avez que deux ou trois concurrents, peut-être plus, une poignée de personnes qui sont vraiment sur le même sujet que vous. Cela veut dire que le plus souvent, la possibilité de publier votre travail, donc l'examen de manuscrit que vous soumettez à une revue, sera fait par votre pire ennemi, par votre pire concurrent. Alors on peut y voir un aspect positif, c'est-à-dire qu'on peut être certain que la critique sera acerbe et
l'émulation
soit forte, mais on peut aussi y voir des systèmes de renvoi d'ascenseur où je lui laisse passer ça, il me laissera passer ça, etc. C'est compliqué, mais tous les chercheurs le savent bien.
Et vous l'évoquiez tout à l'heure, et puis on va voir qu'il n'y a pas que du mal et qu'on peut se tourner vers des solutions, y compris dans la publication. Vous évoquiez tout à l'heure des revues toxiques ou des revues prédatrices. Qu'est-ce que c'est que ça et comment est-ce que ça fleurit?
Alors pour parler des revues prédatrices, il faudrait avant parler des revues en accès libre, en open access.
Allez-y.
Le système des revues à comité de lecture que l'on évoquait tout à l'heure était fondé sur l'idée que c'était le lecteur qui payait, c'est-à-dire on payait un abonnement à une bibliothèque universitaire, mais les gens qui contribuaient à ces revues, les chercheurs, eux, ne payaient pas. Il était gratuit de publier. Avec le début et l'arrivée d'Internet, est arrivé un système exactement inverse, des revues en accès libre, où la lecture est gratuite. Tout un chacun peut lire sur Internet le contenu de cette étude scientifique, mais comme il faut bien payer les frais du comité de rédaction, etc., eh bien, ce sont les chercheurs qui payent jusqu'à 1 000-1 500 $ pour publier un article.
Ce qui est un système très dévoyé qu'on voit, ou en tout cas on voit le dévoiement comme une autoroute au milieu d'un champ.
Alors on en voit le dévoiement, mais il ne faut pas non plus oublier de voir les vertus, qui est d'une démocratisation de l'accès à l'information scientifique. Tout un chacun, sans se rendre dans une bibliothèque, peut avoir accès au meilleur de la formation scientifique. Cette dernière étant payée par l'argent public, il est normal qu'elle contribue à des connaissances publiques. C'est pas en soi, il n'y a rien de néfaste au système des revues à accès libre.
Non, mais en revanche, si on reprend l'exemple de mon étude à 13 faux positifs, à ce moment-là, s'il suffit que je verse 1 000 ou 1 500 euros pour pouvoir publier et que personne ne dit rien, et bien à ce moment-là, mes 13 faux positifs passent dans la littérature scientifique et deviennent la base d'études ultérieures.
Absolument. Vous trouverez des centaines et des centaines de revues prêtes à publier vos 13 faux positifs. Ce sont ça les revues prédatrices, celles-là.
Alors, face à cette littérature toxique, il y a heureusement des initiatives qui vont dans le sens inverse, et c'est ce que vient nous montrer Céline Lozen. Bonjour Céline.
Bonjour Nicolas, bonjour Nicolas Chevassieu-Louis.
Bonjour.
Vous avez donc rencontré l'un des fondateurs d'un site dont nous parlions tout à l'heure, le site qui s'appelle PubPeer. Expliquez-nous ce que c'est.
Oui, effectivement, je suis allée voir Boris Barbour, qui est aussi neurologue à l'Institut de biologie de l'ENS Ulm à Paris. Il m'a montré comment fonctionne ce site PubPeer, qui se présente à la manière d'une archive ouverte qui recense l'ensemble de la littérature scientifique, à cela près qu'il est possible de commenter de manière anonyme les résultats qui semblent douteux ou frauduleux.
Et ce qui veut dire, Céline, que si moi, donc, je vais sur ce site et que je trouve un article qui me paraît, disons, allez, un peu limite, je peux laisser un commentaire pour dire qu'il s'agit peut-être d'une fraude ?
Alors attention, il ne s'agit pas d'une plateforme où n'importe qui peut infirmer n'importe quoi. Non, c'est un outil très sérieux. Ici, les messages doivent présenter des critiques rationnel et argumenté, et pourquoi pas engager de vrais débats qui parfois sortent du cadre du site pour faire l'objet d'une réelle investigation. Et si l'anonymat est de mise sur le site, c'est pour la bonne cause, car les langues peuvent ainsi se délier plus facilement et dans certains cas révéler des vrais cas de fraude.
Le but de PubPeer, c'est de faciliter la discussion, questionnement, voire critique, de tout article qui a été publié. On met le site à la disposition des utilisateurs du monde entier, et c'est eux qui, en lisant les articles, qui relèvent des choses, qui posent questions ou au pire, et qui déposent les commentaires.
Comment ça se passe ? C'est-à-dire que dès qu'un papier est publié, il se retrouve sur votre site ?
Alors, tout article paru aujourd'hui est associé à ce qu'on appelle un Digital Object Identifier, un numéro de série, et avec ce numéro de série, nous pouvons créer dynamiquement une page web qui reprend les informations de l'article, donc le titre, les auteurs, le journal où ça a été publié, la date de publication.
Là, on est sur un article que vous êtes en train de relire pour voir s'il y aurait des erreurs.
Et effectivement, on a une page recent qui liste les derniers articles où les utilisateurs auraient déposé des commentaires. Donc j'ai cliqué sur un des liens. Voici un article qui a été beaucoup discuté. C'est un cas un peu extrême. Il y a deux types de commentaires actuellement. Ceux qui sont totalement anonymes, qui apparaissent sous l'intitulé « Unregistered Submission », donc quelqu'un qui ne s'est pas enregistré, ou « Peer 1 »,« Peer 2 », qui identifie dans un fil de discussion la même personne, mais cette personne n'a pas voulu divulguer son nom. La règle, c'est qu'il faut que quelqu'un d'autre, un autre lecteur, puisse vérifier pour lui-même le commentaire. Tout type de commentaire factuel ou logique, au moins un peu critique, un désaccord sur l'interprétation, jusqu'à des signes apparents de manipulation d'image, par exemple. Des erreurs de statistiques, c'est aussi très fréquent. Donc, ce type de commentaire, tant qu'il y a suffisamment de faits ou d'arguments pour qu'un autre lecteur peut vérifier, est acceptable. Par contre, ce qui n'est pas acceptable, c'est le type de commentaire qui raconterait, par exemple, « J'ai travaillé dans le laboratoire et je sais qu'ils y trichent. » Parce qu'il n'y a aucune preuve, enfin aucun fait vérifiable.
c'est pas de la délation, mais c'est vraiment pour fiabiliser, améliorer les papiers qui seraient publiés et dont on aurait des doutes.
Tout à fait. Donc, ça peut pas être délation dans le sens sans appui. Il faut des faits, des données, des arguments à nouveau vérifiables publiquement. Le but plus général, c'est d'alerter tout lecteur, utilisateur de l'article au moindre problème ou question qui pourrait influer l'utilisation que ce lecteur ferait de l'article. La recherche que nous faisons en tant que chercheurs aujourd'hui se base nécessairement sur toute la recherche déjà publiée, la connaissance qui existe déjà. Or, si les publications qui sont dans la littérature ne sont pas fiables, la recherche qu'on baserait dessus peut être gaspillée. En règle générale, nous avons l'impression que même des commentaires relativement graves ne sont que assez rarement suivis d'effets ou d'événements officiels de type investigation ou correction. Mais il faudrait poser la question aux journaux, aux institutions, comment ils comptent y répondre. Il y a peu de procédures officielles ou rodées en place. Pour prendre un exemple concret, il y a une affaire des deux dernières années qui a un peu secoué la recherche en France, qui était l'affaire Voynet. Et les premiers commentaires mettant en cause ces articles sont apparus sur papier. Quand les commentaires commençaient à apparaître, on a compris qu'il y avait un problème, mais on n'était pas acteur, on était spectateur de l'affaire. Je pense que les collaborateurs d'Olivier Voynet, finalement, ils auraient bien aimé savoir à l'avance l'information qui est parue sur le site, par exemple.
Vous-même, est-ce que vos papiers, vous avez regardé s'ils étaient commentés ?
Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Faut dire que je travaille dans un domaine qui s'y prête peut-être un peu plus difficilement que certains autres, donc il y a peu de données d'image qui sont les plus faciles à vérifier.
Peu d'images, donc peu de supports propices à la fraude ou la falsification en tout cas.
Disons plutôt qu'il est facile de déceler des manipulations d'images. Donc j'ai pas d'images, donc bien évidemment je ne triche pas, mais si je trichais, ça serait plus difficile à déceler. Ce site est une source d'information potentiellement utile. N'empêche, ça peut être une source d'information parfois capitale. Donc pourquoi les gens veulent rester anonymes ? La recherche, en fait, est un métier extrêmement compétitif où il est très difficile de lever des fonds, publier ses articles dans les meilleurs journaux, obtenir un poste, obtenir une promotion. Et la politique que la plupart de gens sont obligés de suivre, c'est d'être amis avec tout le monde. Ce qui ne facilite pas la mise en cause, la discussion, la critique des articles qui le mériteraient peut-être.
Voilà, PubPeer, selon vous, Nicolas Chevassu-Louis, on est sur la bonne voie. C'est à ça que devraient ressembler aujourd'hui les revues scientifiques contemporaines, modernes, pour éviter la fraude.
Certainement une excellente chose, une excellente initiative. Ça ne résout pas le problème de fond qui est la course à la publication et l'évaluation des chercheurs en fonction du nombre et de leur prestige, du prestige de leur publication, qui reste le problème de fond. Tant que cette poussée fraudogène restera là, PubPeer ne sera qu'un médicament utile, mais la maladie restera là.
Parce qu'on parlait tout à l'heure des raisons pour lesquelles ces grandes revues comme Nature et Science gardent toujours ce prestige malgré le grand nombre de rétractations. Il faut peut-être dire aussi un mot du facteur d'impact qui est très important pour les chercheurs dans la façon, pour l'endroit où ils doivent publier leur recherche. C'est quoi, Nicolas Chevassieux, lui, le facteur d'impact ?
C'est un indice qui permet de mesurer le nombre de fois où les articles publiés dans cette revue vont être cités. Et s'ils sont cités, eh bien on peut supposer c'est qu'ils ont été influents. La critique du facteur d'impact est presque aussi ancienne que le facteur d'impact lui-même. Parmi ces critiques, il y a le fait que on ne sait pas si l'article est cité favorablement ou défavorablement. Donc ce qui fait que paradoxalement, un article frauduleux peut devenir extrêmement cité précisément comme exemple de fraude et donc contribuer à élever le facteur d'impact d'une revue qui aura publié un article frauduleux. Donc les critiques sont innombrables.
Ce qui est drôle, c'est que c'est un indice à l'origine qui est conçu pour les bibliothécaires.
Tout à fait. C'était conçu pour les bibliothécaires pour savoir à quelle revue s'abonner. Voilà, les revues les plus influentes. C'est une manière de mesurer. Si ce n'est juste cela, s'il s'agit juste de mesurer l'influence d'une revue, pourquoi pas? Mais de là à en faire d'un outil qui était conçu pour mesurer l'influence d'une revue, on a fait un outil visant à mesurer la qualité de la production d'un chercheur. Ce n'est pas la même chose, une revue et un chercheur.
Avant de conclure, et il nous reste quelques minutes encore, je voulais vous soumettre à une petite expérience. C'est une expérience à l'aveugle. Écoutez.
Cher Nicolas, en lisant ton livre, je ne peux m'empêcher de faire un parallèle entre la science telle que tu as décrit et le monde économique, avec ses bulles spéculatives, la déconnexion entre les théories et les faits, et les « too big to fail ». Est-ce que tu penses que ce parallèle se justifie? Et si oui, est-ce que tu penses qu'il y a plus d'espoir pour la recherche scientifique que pour l'économie et la finance?
Est-ce que vous avez reconnu votre interlocuteur mystère?
Il semblerait que ce soit un compatriote montpelliérain.
Tout à fait, c'est Samuel Alizon.
Chercheur au CNRS, spécialiste d'évolution.
Et alors, à cette question-là?
À cette question-là, je serais enclin d'abord à citer une phrase que Samuel aime beaucoup, qui est « de défaite en défaite jusqu'à la victoire finale ». Donc nous irons défaite en défaite dans le combat pour une intégrité scientifique, mais la victoire finale a plus de chances de se produire que dans le domaine de l'économie, parce que fondamentalement, la recherche garde pour valeur, et c'est en ce sens, tout à l'heure vous m'interrogez sur la déclaration de Singapour, elle rappelle ses valeurs. Les valeurs d'intégrité, de partage des résultats restent officiellement au cœur du monde de la recherche. Donc on peut s'appuyer sur ces valeurs qui sont consensuelles. Personne n'a dit que la recherche allait devenir un monde de truands et de tricheries, alors que la finance reconnaît cette idée. Le monde financier n'a jamais dit que c'était un monde honnête. Il a dit que c'était un monde qui visait à faire le plus d'argent possible. Par tous les moyens sont possibles. La science n'a jamais dit que tous les moyens étaient permis. Les moyens sont encadrés. Donc en ce sens, je serais plutôt plus optimiste pour arriver dans l'espoir d'arriver à une science plus intègre, oui.
Une toute dernière question. Vous évoquez à la fin de ce livre la malscience de la fraude dans les labos. Vous évoquez, Nicolas Chevassiot-Louis, que la fraude scientifique est à ce point grave qu'elle pourrait ou qu'elle devrait constituer une infraction pénale.
Oui, plutôt. C'est un débat qui commence à monter, je trouve, qui commence à monter dans le monde scientifique, sur lequel je n'ai pas d'avis réellement tranché à ce stade. Les Américains ont adopté cette judiciarisation des traitements de fraude scientifique au nom de l'idée que lorsqu'une recherche est financée par des fonds publics et que ces fonds publics sont utilisés pour faire des fraudes frauduleuses, ça revient à un détournement de fonds publics. Quand vous avez donné de l'argent pour faire de la recherche, vous le faites pour faire de la mauvaise recherche, c'est un détournement de fonds publics. Donc ça rentre dans toute une jurisprudence de détournement de fonds publics. C'est comme si vous bâtissiez une villa en Corse avec l'argent. Voilà. Pourquoi pas? Ça a le mérite de la cohérence. Ça a l'inconvénient de renvoyer le traitement de ces affaires devant des tribunaux qui ne connaissent strictement rien au fonctionnement du monde de la recherche. Et pour cause, et je serais moi plutôt en l'état enclin à privilégier un traitement interne au monde scientifique avec des initiatives de type peer, de type science lente, etc. Mais plutôt à tenir les tribunaux à l'écart de ces questions.
Ça aurait une vertu très très dissuasive en tout cas.
Sans doute, mais peut-être trop dissuasif, trop dangereuse aussi.
Pour conclure cette émission, Nicolas Chevassiot-Louis, comme chaque jeudi, nous allons ouvrir la porte de notre bibliothèque des sciences. Toutes les semaines, un ou une scientifique de renom nous lit un extrait de l'ouvrage scientifique qui a marqué sa carrière. Et aujourd'hui, nous retrouvons Hubert Reeves avec un extrait d'Albert Einstein.
La bibliothèque des sciences.
Voilà un texte d'Einstein sur la motivation derrière tous les travaux des scientifiques. Quelle foi profonde dans le caractère raisonnable de la construction du monde et quel désir de comprendre ne serait-ce qu'un minime reflet de la raison révélée dans ce monde devait être à l'œuvre chez Kepler et Newton pour qu'ils puissent éclaircir par un long travail solitaire le mécanisme de la mécanique céleste. Ceux qui, pour l'essentiel, ne connaissent la recherche scientifique que d'après ses effets pratiques, risquent facilement d'avoir une conception tout à fait erronée de l'état d'esprit des hommes qui, dispersés dans tous les pays du monde et tous les siècles, partagent les mêmes idéaux qu'eux. Seuls ceux qui ont consacré leur vie à de semblables buts ont une idée vivante de ce qui a animé ces hommes et de ce qui leur a donné la force de rester fidèles à leur but malgré d'innombrables échecs. C'est la religiosité cosmique qui dispense de telles forces. L'idée fondamentale dans le texte, c'est que pour entreprendre pendant des années d'essayer de faire la science, c'est qu'il faut au départ une foi, une croyance qu'il y a du sens dans la réalité, qu'il y a quelque chose qui peut être appliqué, étudié par la raison, par la connaissance scientifique. Donc c'est d'abord un état d'esprit chez les scientifiques qui les motive suffisamment pour qu'ils passent des années à ce travail, c'est qu'ils y croient. Fondamentalement, il y a une notion de croyance dans ce travail, dans son utilité, dans sa pertinence.
Voilà, la croyance en les sciences d'Hubert Reeves, vue à travers le prisme d'Albert Einstein, Nicolas Chevassu, Louis, vous, s'il y avait un livre qui a marqué votre carrière de scientifique, mais pourquoi pas de journaliste aussi, ou d'auteur, quel serait ce livre ?
Ce ne serait pas un livre, mais quatre. Oh. Les quatre que Eric Sobrebrown, l'historien britannique, a consacré à l'histoire du 19e et du 20e siècle. Donc il y a quatre tomes qui s'appellent L'âge des révolutions, L'âge des empires, L'âge des empires et L'âge des extrêmes, voilà. Et ce qui m'a toujours passionné dans ce qui est une fresque historique de l'ensemble des mutations du 19e et du 20e siècle, c'est qu'il intègre toujours les sciences. Il y a toujours un chapitre sur les sciences. Et les arts également, cette manière de prendre l'histoire des sciences comme faisant partie de la science historique, du mouvement historique, m'a toujours beaucoup intéressé. J'ai toujours trouvé dommage que les historiens ne connaissent rien à l'histoire des sciences, et les historiens des sciences connaissent souvent pas grand-chose à l'histoire en général. Et Hobsbawm, en cela, pour moi, était un modèle.
Très bien, bah écoutez, on mettra les références de cette tétralogie sur le site de la méthode scientifique. Merci beaucoup, Nicolas Chevassu-Louis, d'avoir été avec nous pendant cette heure autour de la table de la méthode scientifique. Je rappelle votre livre « Malscience de la fraude » dans les labos, c'était dans la collection Sciences Ouvertes aux éditions du Seuil. Merci d'avoir été avec nous.
Merci de votre invitation.
Et je vous signale également le début ce soir de Paris Science. Paris Science, pour celles et ceux d'entre vous qui habitent en région parisienne, Paris Science, c'est le festival du film scientifique. Ça se passe jusqu'à mardi prochain. 90 films seront projetés au Muséum d'Histoire Naturelle. On vous met tout le programme sur le site de la méthode scientifique sur franceculture.fr. Merci à toute l'équipe de la méthode, Eve Etienne, Antoine Beauchamp, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Céline Lozen, Léo Quentin. À la réalisation, c'est Elisabeth Miro. À la technique, Clément Daté. Et au droit d'auteur, Cyril Svetosevic. Et demain, table ronde fiction, comme tous les 15 jours, vous apprendrez notamment que le téléphone à clapet ou les portes coulissantes automatiques ont une seule et même origine, la série Star Trek, qui fête cette année ses 50 ans. Dans quelques minutes, on reste dans les sciences. Marie Curie est la dernière femme scientifique sous LSD, la série documentaire de Perrine Kerbrand. Et nous, on se retrouve bien demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.